peut encore donner une réponse. Donc, nous serons chargés donc dans le temps à développer des sujets, à faire venir des personnes, des invités qui nous parleront entre autres du magnétisme, de la radiesthésie, de la géobiologie, du yoga, du Reiki, des NDE, des expériences de mort imminente, bon, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Et on aura le temps, je dirais, un peu plus tard de discuter de tout ça. Aujourd'hui, le thème de l'émission,
Thomas, vas-y.
Voilà, le thème de l'émission, ce sera l'histoire du spiritisme.
On va commencer par le début, je crois.
Je pense.
Hein. Historiquement, on va dire, on va commencer chronologiquement. Donc, première émission, premier fait irrationnel,
oui.
On peut appeler ça comme ça.
On va dire que c'est le premier fait marquant de l'histoire du spiritisme, évidemment. Bon, ce qu'on va d'abord dire au point de vue spiritisme, parce que bon, c'est un mot qui encore fait peur, c'est un mot où on entend quand on parle de spiritisme, on fait parler les esprits, est-ce qu'il y a un côté...
Moi j'ai l'impression que c'est un mot qu'on connaît, mais qu'on veut pas chercher.
Exactement.
Et on dit, oui, j'en ai déjà entendu parler, ou j'ai déjà vu, mais... Je veux pas m'y intéresser.
Bien sûr,
on devrait essayer de débattre, de dégrossir un petit peu ce phénomène un petit peu qui fait peur, et puis on va essayer de le présenter le plus communément.
Bien sûr, puis le plus gentiment possible.
Voilà, tout à fait.
Bon, ce qu'il faut surtout dire dans le spiritisme, c'est qu'il n'y a rien de diabolique derrière. Ça, c'est une évidence. On pourrait dire, ça y est, les médiums, ce sont des suppôts de Satan. Or, ce n'est pas du tout ça. On va dire surtout, un médium est un canal. Un médium, c'est quelqu'un qui capte des informations, des énergies.
Je dirais même, moi, c'est un instrument.
Exactement. Oui, c'est comme quand vous passez un coup de téléphone, sauf que là, vous passez avec une entité, un esprit. On va essayer de développer tout ça. Évidemment dans le temps et un peu aujourd'hui, je dirais même beaucoup, parce qu'aujourd'hui, je dirais que c'est le point fondamental, c'est expliquer clairement comment ça s'est passé, pourquoi tous ces mots médium, esprit, table tournante, Ouija, qui sont apparus, on va dire, au milieu du 19e siècle. On va essayer de comprendre pourquoi c'est apparu, pourquoi c'est apparu à ces personnes-là, et en même temps retracer dans le temps aussi, parce que bien, ce n'est pas arrivé uniquement au milieu du 19e siècle, mais bon, on peut se dire que Jeanne d'Arc entendait des voix,
par exemple, ouais.
Le Christ a eu des apparitions, soigné par le magnétisme, donc...
Les premiers penseurs avant Jésus-Christ, Socrate et autres, par exemple, ça remonte à très loin. Bon, ça, c'est à creuser, et puis c'est un point de vue. On n'essaye pas de dire des choses. C'est un point de vue qui est tout à fait discutable,
hypothétique,
et on est ouvert à toute question.
Voilà. Donc, point de vue d'émission,
Thomas, on va essayer de présenter un petit peu l'émission. Donc l'émission se compose en deux parties. Je crois que toutes les émissions se composeront en deux parties. On essaiera d'aborder deux thèmes qui sont proches, mais qu'il faut expliquer. Donc là, cette semaine, on va commencer par deux précurseurs médiums.
On va commencer
chez précurseurs médiums.
Premier chapitre.
Voilà, exactement. Et entre les deux, nous aurons une pause
musicale
qui explique ou qui donne un petit peu un message, quoi. Hein,
voilà.
On va dire ça.
On vous laissera découvrir au fur et à mesure. On vous en a concocté une très intéressante d'ici une petite demi-heure. Hein. On vous en dit pas plus.
Ah, oui,
mais
oui.
À mon avis, vous allez aimer. Alors, aujourd'hui, donc, comme Bruno l'a dit, on va commencer par le début, expliquer l'histoire du spiritisme. Alors, l'histoire du spiritisme, eh bien, c'est vaste, c'est immense, et ça a commencé, on va dire, en deux points du globe, pratiquement au même moment, puisque ce sont les sœurs Fox qui, d'abord, ont eu énormément de manifestations, on va développer, et ensuite, notre cher Hippolyte Denisard Léon Rivaille, plus connu sous le nom d'Allan Kardec.
Tout à fait.
Certains qui nous écoutent doivent certainement connaître Allan Kardec, puisque bon, c'était quand même un Français, et il a écrit énormément d'ouvrages consacrés au spiritisme. On en parlera en deuxième partie. On va d'abord se consacrer aux sœurs Fox qui sont, je dirais, moins connues ici en France. Alors,
je présente un petit peu les sœurs Fox, où ça se situe, à quelle époque, le temps, qu'est-ce qui leur est arrivé, vas-y.
Alors, les sœurs Fox, ça s'est passé à New York, dans un état de New York, plus précisément aux États-Unis, en 1848. Alors c'est précis parce qu'il reste énormément de traces encore là-bas à Hillsville de nos jours. Ça, je le dirai un peu plus tard. Donc, ce sont des habitants de Hillsville, la famille Fox, qui furent donc actrices de phénomènes surnaturels, considérés, je dirais, comme étranges, d'ailleurs encore de nos jours, hein, puisqu'on en a discuté il y a quelques instants, et en l'occurrence, cette maison, soi-disant, aurait été habité par des esprits qui se manifestent par des coups frappés. Alors, ce serait donc passé en 1848, 31 mars plus précisément. Bon, je donne la date évidemment, mais ça n'a pas trop d'importance. Ce qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi à ces personnes-là, qui s'est manifesté et pour quelle raison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les coups frappés se sont fait entendre tout d'abord en 1846. Et à cette époque-là, ce fut un dénommé Monsieur Weckmann qui habitait la maison, à Idlesville. Là, on ne parle pas des Sir Fox. Alors, ce monsieur avait déjà entendu certains coups, mais il n'a pas trop cherché à comprendre ce qui s'était passé.
Ouais, ça peut être un volet qui claque ou un plancher qui bouge, quoi.
On va dire qu'il a eu un raisonnement cartésien.
Voilà. Il ne s'est pas creusé la tête, non.
Il ne s'est pas creusé la tête, comme peut-être encore beaucoup de personnes aujourd'hui ne se creusent pas la tête.
Quand ils se retrouvent sur des fêtes assez troubles ou inexplicables, et ils n'essayent pas de creuser.
Je n'ai pas dit que parfois c'était le choc qui faisait tomber un verre ou alors une porte de fenêtre ou autre chose qui pouvait donc faire le bruit, mais je veux dire que il y a beaucoup de personnes à qui c'est arrivé, mais où les personnes ne cherchent pas trop. Bon, bref. Monsieur Weckmann quitte la maison à Idlesville en 1847 et la famille Fox donc prend place dans la demeure. Alors, chez les Fox, il y a donc Monsieur et Madame Fox ainsi que trois de leurs filles qui, elles, sont donc actrices de ces coups frappés, mais la famille Fox était une très grande famille puisqu'ils avaient six enfants. D'accord. Alors, les coups frappés ont commencé à apparaître donc quelques temps après leur arrivée, et là, évidemment, stupeur. Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Qui s'amuse à faire ça? Alors, évidemment, on se suspecte entre nous, mais bon...
Qui fait la bonne blague?
Voilà, qui fait la bonne blague. Donc, pour le moment, on ne cherche pas trop à comprendre, mais bon, à chaque fois, ça recommence. Et des coups, on ne va pas les imiter, parce que c'est difficile à imiter des coups frappés, vous pouvez très bien,
tout le monde s'imagine un bon coup sur la table ou un coup dans le mur, alors que le mur est quand même assez dur, donc... C'est un coup frappé qui fait du boucan, mais qui fait du boucan pas au hasard.
Non, exactement.
Ça
devait se passer là.
Voilà, exactement. C'est ce qu'on va dire.
Ça devait se passer là pour, je dirais, se faire médiatiser. Voilà. Ouais. On va expliquer pourquoi. Donc, les sorts ont reçu de plus en plus donc ces coups frappés.
Ouais, on essaie d'expliquer grosso modo ce qui a dû se passer parce qu'on n'a pas de fait là-dessus, mais ils ont dû essayer.
Il y a des écrits.
Ils ont constaté des coups frappés. Ils se sont dit, tiens, c'est pas anodin parce qu'ils reviennent. Ils ont essayé d'établir une sorte de contact avec oui, non, deux coups, un coup. Et puis c'est là où ils se sont avérés, ils se sont rendu compte qu'en fait, quelqu'un communiquait avec eux.
Alors,
et c'était quelque chose, une intelligence.
Qui, Bruno, peux-tu dire qui comment il s'appelait? As-tu revu tes notes? Alors moi, je vais expliquer pour nos auditeurs. Donc les surfers, comme le disait Bruno, ont installé un code, c'est-à-dire, bon, un coup, la lettre A, deux coups, la lettre B, trois coups, la lettre C. Alors imaginez...
Ça s'appelle ZZZ.
Exactement. Ça s'appelle avec plusieurs Z dans le nom, ça faisait énorme.
Donc WHE.
On a de la chance, la lettre la plus éloignée de mon nom était le R. Le S, autant pour moi. Donc après avoir fait ce code, ce monsieur s'appellerait Charles B. Rosma. Donc, qui était ce Charles B. Rosma? Les Sir Fox l'ont demandé. Il aurait été colporteur et aurait été âgé de 31 ans. Alors, mort, c'est-à-dire qu'il nous explique comment il est mort. Et par l'intermédiaire des coups, eh bien, monsieur Rosma a indiqué qu'il avait été assassiné dans cette maison afin que l'on lui vole son argent parce qu'il était colporteur. Qu'est-ce qu'un colporteur aujourd'hui? Eh bien, c'est un VRP,
un itinérant, on va dire.
Voilà, quelqu'un qui...
Il avait des choses à vendre, donc il avait de l'argent sur lui, et il s'est fait assassiner pour qu'on lui pique son pognon.
Voilà. Il a expliqué au Sir Fox qu'il avait été enterré donc dans la cave, et enterré dans la cave, ce qui nous dit quand même qu'on peut avoir une preuve, donc il suffit de déterrer tout ce qu'il y avait dans la cave, mais enfin bon, imaginez un peu, il faut prendre les pelleteuses et puis casser la maison et puis découvrir ce qui s'y passait. Donc ça, on verra plus tard ce qui s'est réellement passé en dessous de la cave, et je peux vous dire que c'est assez saisissant. Donc, Monsieur Rosma, donc, dit au Sir Fox, 31 ans, Cole Porter assassiné. Bon, bref, jusque-là, rien de plus, mais voilà, ça a commencé à que ce que le voisin, eh bien, s'intéresse, le voisin du voisin...
Ça s'est médiatisé, ça s'est boule de neige.
Eh bien, toute la ville d'Idosville a commencé à s'intéresser au don, du moins au coup frappé qui se passait chez les Sœurs Fox, et puis on décidait de faire des réunions.
On va essayer de se mettre à leur place. Donc en fait, les Sœurs Fox s'aperçoivent qu'elles communiquent avec une intelligence qui n'est pas visible. Les voisins l'apprennent, ils se disent tiens, mais bah, pourquoi pas essayer. Et puis on va essayer de communiquer avec tonton, avec papy et machin qui a disparu. Et puis à mon avis, ça a dû se passer comme ça. Pour savoir si c'était exact, ils ont dû aussi le prendre, enfin les voisins ont dû prendre leur propre cas, et ils ont commencé à essayer de communiquer comme ça par ces coups frappés.
Oui, exactement, bien sûr. Bon,
on arrive à une réunion de...
Il y a 300 personnes dans une maison de 60 mètres carrés, imaginez un petit peu ce que ça peut faire. Mais bon, quoi qu'il en soit, eh bien, il faut bien admettre que toutes les personnes qui ont été présentes lors de leur réunion, eh bien, ont eux-mêmes été... spectatrice des coups frappés. C'est-à-dire que dans cette maison, eh bien, se produisaient les mêmes coups que les Sœurs Fox entendaient. C'est quand même quelque chose de non rare. Alors, il y avait des personnes quand même du corps médical, des psychiatres, oui, ça qui étaient présents.
On était arrivé à un tel point où ils ont... des gens de science et des gens de médias se sont intéressés un petit peu à ce qui se passait pour essayer de soit relater les faits, soit de contredire, ou alors de cautionner un petit peu ce qui se passait.
De cautionner, ils essayaient justement de se dire est-ce que les Sœurs Fox sont folles ou est-ce qu'elles racontent une part de vérité. Donc bon, énormément de journalistes ont écrit des revues, des articles sur les Sœurs Fox, et plus d'un ont fait le tour des États-Unis, et puis c'est arrivé progressivement, on retombait aux oreilles du clergé de l'époque, qui évidemment n'entendait pas de cette oreille. Donc à partir de là, des problèmes ont commencé,
mais donc ça les dérange un petit peu.
Oui, ça les a même dérangés énormément. Mais enfin bon, on n'en était pas encore là, puisque il fallait quand même se dire que il se passait quand même quelque chose de fort, et on venait de loin, et la ville d'Idosville à ce moment-là commençait à devenir carrément un pèlerinage. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que aujourd'hui on peut l'affirmer, puisque l'événement qui s'est passé là-bas a marqué les débuts du spiritisme moderne. Voilà, c'est ça que je voulais surtout souligner, hein, et il faut savoir qu'encore aujourd'hui, les adeptes se comptent par millions, surtout en Amérique. On en parlera tout à l'heure avec notre français. Alors, les retombées. Voilà. Alors là, les retombées, ça va commencer à ne plus trop bien se passer donc à Idosville, dans cette maison.
Oui, parce que le clergé s'en mêle.
Mais il y a le clergé, les politiciens se sont mêlés aussi. Donc plusieurs corps donc de scientifiques à cette époque-là se sont mêlés, et il n'était pas rare de voir des personnes avec des croix essayer de faire fuir le diable, etc. Bon, et demander si les Sœurs Fox n'étaient pas complètement folles. Or, rien n'en était, puisque quand même les Sœurs Fox avaient leurs sympathisants, il faut quand même le dire, et beaucoup de personnes donc restaient en contact avec elles malgré ce qui s'est passé par la suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que...
Raconte-moi tout ça, Thomas.
Mais je vais me faire un plaisir. Alors, il y a une confession. Il y a eu beaucoup de jalousie à cette grande découverte, et donc, pour essayer donc de faire fuir, découvrir un éventuel canular, eh bien, des illusionnistes, des magiciens ont même essayé de reproduire les faits. Et progressivement, on est arrivé que certains de la famille Fox ont reçu, on va dire, des pressions, une pression constante de la part de certains courants. On ne citera pas,
Tout. Et parallèlement à ça, ce qu'il faut rajouter, c'est que dans la famille Fox, tout le monde n'est pas converti à cette forme de communication.
Excepté les filles, je vais quand même dire le prénom, c'est aussi intéressant. Les filles s'appelaient donc Léa, Margaretha et Catherine. Léa et Margaretha étaient deux jeunes filles, Catherine était un peu plus âgée. Et c'est surtout Léa et Margaretha qui étaient, qu'il y a un fluide médiumnique, hein, qui l'ont développé ensuite par la suite.
Et on expliquera ce qu'est un fluide médiumnique
la semaine prochaine.
Oui, voilà.
Dans une autre prochaine. La semaine prochaine, le thème sera les médiums. On vous le redira là tout à l'heure. Alors, évidemment, comme je le disais, la confession, eh bien, ça a commencé à très mal tourner, et il n'était pas rare de voir les filles Fox se sortir de chez elles, se faire insulter, cracher dessus, même de temps en temps se faire se faire menacer,
hein, oui.
Menacer, et à partir de là, eh bien, ça commençait à devenir donc très difficile pour elle, et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, progressivement, il y a eu un peu de désunion dans la famille, et certains ont continué à travailler, du moins leur médiumnité avec cet esprit, puis d'autres, eh bien, n'y croyaient pas, dont l'un des maris d'une des sœurs Fox qui n'y croyait absolument pas et qui lui-même aussi faisait pression pour que bien qu'on soit un peu plus respectueux et que bien tout redevienne en ordre. Mais rien n'en fait, hein. Les trois filles ont tout de même voulu continuer à prouver ce qu'elles disaient et dans le temps, un peu plus tard, eh bien faut savoir, mais ça c'est pas bien perçu et on le dit pas assez souvent. Et je l'ai constaté il y a pas longtemps dans un livre où la famille Fox avait donc démenti ce qui s'était passé dans cette maison. Or, et c'est là où ça s'arrête et nous on va continuer, c'est que les filles Fox sont revenues sur leur fausse confession, c'est-à-dire que,
pour expliquer un petit peu, sous la pression, les filles Fox ont dit bon, on va essayer quand même de couvrir notre famille.
Et pécuniairement parlant,
ils ont dû se faire racheter, les non convertis ont dû dire il y en a marre, je peux plus vivre, je peux plus rentrer chez moi, faut que ça cesse.
Fait.
Donc elles ont démenti un petit peu ce qui s'était passé, sous la pression pour calmer un petit peu toute cette population qui leur en voulait.
Bien sûr, cette population leur voulait, pas tout le monde.
Non, mais la population de non-convertis qui ne croyait pas, fallait les calmer.
Parce qu'il faut savoir aussi que les journalistes qui avaient assisté et puis d'autres scientifiques qui ont assisté à ces événements revenaient voir les surfaces pour dire mais vous ne pouvez pas dire ça aujourd'hui, on a assisté comme vous, enfin attention, ça dépendait lesquels, hein, les deux petites filles, elles étaient toujours convaincues de discuter avec le colporteur. Mais d'autres personnes, les journalistes qui ont assisté, qui ont constaté de même qu'il s'est passé quelque chose, ne comprenaient pas pourquoi ils étaient revenus et c'était complètement la désillusion totale, quoi, puisque comment se fait-il qu'il se passe quelque chose, et puis la moitié de la famille y croit, l'autre qui dit, ça n'existe pas, donc, point d'interrogation. Et puis, dans le temps, ils sont revenus sur leur confession, mais entre deux, elles avaient déménagé. Il y avait trop de pression, ça devenait vraiment méchant, et elles ont déménagé. Alors, la famille Fox quitta la demeure, et avoua, donc, avoir inventé ces fausses confessions pour être tranquille, mais... Il faut aussi savoir que quelques temps ont passé, la mort a rattrapé certaines des filles Fox,
oui.
Et ben oui, hein, en 1904, 1854, ça faisait quand même 50 ans, donc certaines ont commencé à mourir, et de cette fausse confession, donc les autres filles Fox ont déménagé, on n'a plus trop entendu parler, et je ne sais pas ce qu'elles sont devenues après, mais en 1904, la maison s'est détruite. Et qu'est-ce qu'on a découvert en dessous de la cave? Eh bien, des ossements humains. Alors évidemment, le gros doute, puisque la municipalité d'Idolville à cette époque-là s'était déplacée pour constater eux-mêmes qu'il y avait des ossements. Alors les filles Fox n'étant plus là, les dires sont restés. Et c'est à partir de ce moment-là qu'un pèlerinage a commencé complètement à envahir la ville, c'est-à-dire que on a réédifié la maison des Sœurs Fox qui aujourd'hui en 2004 et des villes existe encore.
Voilà, tout à fait.
C'est la maison, il y a une réplique de la maison et c'est un monument maintenant. Hein.
Et ils ont même érigé un petit monument qui ressemble à l'obélisque sur la ville.
Hein.
Oui, en plus petit. Oui. Qui ressemble à l'obélisque sur Paris.
Tout à fait, c'est ça. Et on peut vous pouvez le voir, enfin si vous avez internet et que vous voulez vous connecter ou faire des recherches sur les Sœurs Fox, vous pouvez voir ce qu'on vous affirme que c'est vrai, puisque ça se trouve, à Idolville, en plein centre, me semble-t-il.
Bien sûr, et là-dessus, je enchaîne parfaitement, merci de me tendre la pêche, parce que il va falloir nous communiquer un petit peu nos coordonnées,
plaisir.
Si ces gens veulent aller sur Internet, Thomas, il faut quand même leur donner des adresses. Donc, si vous voulez l'adresse, vous avez le mail de Chemin de Lumière, donc vous faites le www.chemindelumière, tout attaché en minuscule.
Non, Bruno, tu te trompes. En réalité, là, c'est l'adresse mail. Nous n'avons pas de site internet.
Tout à fait.
Le site internet, c'est la Radio Boomerang, www.radioboomerang.com, donc Radio Boomerang, comme ça se prononce. Alors, il y a deux mails. Ou vous nous envoyez directement à nous, c'est-à-dire nous-mêmes, Bruno Thomas, allons gérer notre adresse. Donc, Chemin de Lumière en minuscule, donc c'est -bas, 7, donc chemin de lumière en minuscule tiré bas 7, donc c'est la touche 8 de votre écran, enfin du moins de l'écran, non, du clavier, du clavier, non pas numérique, mais du clavier où on a les lettres de l'alphabet, c'est tout en haut, hein, @yahoo.fr, donc chemin de lumière tiré bas 7, @yahoo.fr, ou directement à la radio, 89.7, @radioboomerang.com. Mais enfin, vous aurez plus de chances d'avoir de réponses par le premier mail qu'on vous a donné. Pour nous joindre aussi à la radio, n'hésitez pas non plus.
Un numéro de téléphone, 03 20 73 08 97.
Voilà.
Et tu peux peut-être donner l'adresse.
L'adresse de la radio?
Oui, tout à fait.
On va conserver ça pour nous.
Bon, d'accord.
Bien sûr. On verra plus tard. Passons, à mon avis, les amateurs de Radio Boomerang connaissent, et ça, vous nous trouvez si ils ont aussi des questions à nous poser. Donc, on va finir avec notre première partie avant de passer à la seconde. Donc, aujourd'hui, dans le monde, j'insiste, l'histoire de Sir Fox s'est répandue rapidement. Et dans beaucoup de foyers, des séances de table tournante avaient lieu. On peut aussi citer notre ami Victor Hugo, qui faisait beaucoup de tables tournantes à cette époque-là, et bien d'autres, puisque même à ces moments-là, ça a fait le tour de l'Assemblée nationale.
On découvrira dans notre deuxième partie,
parce que bon, très peu de personnes connaissent l'histoire réelle d'Allan Kardec.
Tout à fait.
Et bien, il n'était pas rare donc de voir des réunions de divertissement, alors qu'il en réalité n'en sont absolument pas, pour certains qui voyaient là, bon, un nouvel amusement, une nouvelle instruction, mais bon, c'était quand même dans les quartiers de Paris assez chic.
C'était dans la bourgeoisie.
Voilà, qu'il y a eu beaucoup de manifestations.
Bien sûr.
Donc ce phénomène est arrivé en France, par la même occasion, et des médiums de plusieurs coins du monde vinrent sur Paris démontrer qu'ils faisaient donc tourner ces tables grâce aux esprits. Alors, en 1854,
voilà, pour au niveau du temps,
voilà, pratiquement même temps des Sir Fox, eh bien, c'est arrivé aux oreilles d'un certain Hippolyte Denisard Léon de Rivaille, qui est plus connu sous le nom d'Allan Kardec, et bon, on va se faire un plaisir de vous en parler juste après cette pause musicale.
Tout à fait.
Que Bruno va nous lancer.
Radio Boomerang. Ici, nous sommes tous différents et ça s'entend. Et voilà qu'elle danse. Radio Boomerang, ici, nous sommes tous différents et ça s'entend.
Radio Boomerang, donc le 89.7 FM, vous êtes dans l'émission Chemin de Lumière avec Bruno et Thomas, nouvelle émission donc sur les bandes FM, dans le Nord d'ailleurs, et je crois que c'est une des seules,
je pense, à moins
d'avoir d'autres radios
pas à ma connaissance.
Dans d'autres régions, mais je crois que c'est la dernière émission.
Dans d'autres régions, oui, mais ici dans le Nord de la France, pas à ma connaissance.
C'est la seule émission donc sur le... spiritisme, médiumnité, tout ce qui est effet paranormal, tout ce qui est
la science.
Ouais, voilà,
la science, le spirituel, on peut la dire comme ça, tout à fait, c'est une philosophie. Donc bon, on va essayer d'en discuter, de la développer, et puis ben, surtout développer tous les sujets les plus intéressants, hein, en passant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du magnétisme, la géobiologie. Alors géobiologie, c'est le bien-être de la maison. En Belgique, précisément, quand vous allez de temps en temps dans des salons pour les, je dirais pour les maisons, pour l'habitat, eh bien vous avez pas mal de géobiologues, hein, qui sont là avec leurs petits pendules et qui viennent essayer de trouver dans vos terrains, bon, des sources d'eau, etc. J'ai déjà fait connaissance avec certains, c'est pas mal. Alors,
pour résumer un petit peu ce qui s'était passé depuis 19h, parce que Chemin de Lumière sur le 89.7, c'est donc le mardi de 19h à 20h, donc on a fait une première partie
et une rediffusion
tout à fait
le vendredi de 21h30 à 22h30 pour ceux qui auraient envie de nous réécouter.
Tout à fait, donc je recommence la première partie. Nous avons parlé des Sœurs Fox, qui est pour nous chronologiquement le début
des pionnières
du spiritisme moderne,
oui,
parce que ça a bien commencé avant, on a énormément de cas avant, mais on va commencer par les Sœurs Fox. On va dire que c'est les premiers vraiment
les pionniers
relatés médiatiquement, on va appeler ça comme ça, et c'est les premiers faits surnaturels modernes.
Tout à fait.
Donc on a parlé des Sœurs Fox qui a été aux États-Unis, des événements qui se sont passés donc aux États-Unis et qui sont arrivés quasiment 10 ans après les premiers faits sur Paris. On parle
en même temps, Bruno.
1847-1857. Allez, on va dire que c'est en même temps.
On va dire que c'est le milieu du 19e siècle. Hein,
voilà.
C'est arrivé certainement aux oreilles de notre cher Hippolyte quelque temps auparavant. Mais bon, on va nous quand même expliquer qui était Hippolyte de Nizard et Léon de Rivail.
Donc là, on n'est plus aux États-Unis, on est sur Paris en France.
On peut quand même dire qu'on commence notre programme radio avec le bicentenaire de sa naissance, puisqu'il est né le 3 octobre 1804. Et vient de se terminer le mondial des spirites sur Paris, où énormément de Brésiliens, Portugais, de personnes de tous horizons, mais enfin principalement d'Amérique, et des Français aussi évidemment, puisqu'il y a
Amérique du Sud.
Oh oui, énormément d'Amérique du Sud. Et là, on va justement expliquer qui est Allan Kardec. Alors, Allan Kardec, c'est quelqu'un qui, d'abord, ça s'appelait pas Allan Kardec, c'est Hippolyte de Nizard Léon de Rivail. Voilà.
Ça, c'est son vrai nom.
C'est son nom de naissance. Alors, Hippolyte Léon de Nizard de Rivail, donc, est né à Lyon et il a vécu, je dirais, toute son enfance dans la région lyonnaise et il a intégré très rapidement, dès l'âge de 10 ans, l'Institut Yverdon, qui était dirigé par un certain Pastalozzi, qui était fondateur et enseignant en Suisse.
Alors, qu'est-ce qu'ils enseignent là-bas, Thomas ?
Oh, ils enseignent beaucoup de choses.
J'en doute pas.
Bien sûr. Il faut savoir quand même que, le
violoncelle,
non, je ne pense pas, non. Non, ils enseignent un petit peu, je dirais, c'est pas une école pour élite, mais c'est pas loin, puisque ce sont quand même des enfants qui sont précoces, qui ont beaucoup de connaissances. On les appelle aujourd'hui les enfants indigo, les enfants précoces, hein, puisque bon, il n'est pas rare aujourd'hui de voir quelqu'un qui passe un bac à 14, 15, 16 ans, voire même plus jeune. Donc ce sont des enfants qui ont des facultés, je dirais, différentes, non pas des autres, mais enfin bon, qui ont une excellente mémoire et qui développent quand même des dons à d'autres choses.
Des facilités.
Ouais. Ils ont énormément de facilités. Et donc Pastalozzi, c'est quelqu'un qui était convaincu que l'intuition est le savoir de tout. Voilà. Tout provient de l'intuition. Alors évidemment, l'intuition, c'est énorme. Parce que bon, l'intuition, ça peut être aussi une forme médiumnique. Mais enfin, bon, on en parlera.
La semaine prochaine, je crois.
Oui, exact. Donc, Revile, on va l'appeler Revile, a suivi toute son éducation et sa formation scolaire en Suisse. Donc, c'est ce monsieur Pastalozzis. Alors, jeune adulte de Revile s'est très vite intéressé au magnétisme que Franz Anton Mesmer a découvert au XVIe siècle. On parlera aussi de magnétisme plus tard et ce fameux Mesmer qui était quand même, c'est le pionnier du magnétisme. Hein. Il s'est d'abord intéressé au magnétisme animal. Mais donc, Revile s'intéressait à ses écrits sans pour autant croire aux esprits ou à toutes ces choses bizarres. Hein. À son époque-là, il n'y croyait absolument pas. C'était un mathématicien, scientifique, cartésien, rationnel. Mais bon, comme quoi il n'y a pas de hasard, on va comprendre ensuite pourquoi. Alors, Revile est devenu très très jeune instituteur. Lui, c'était instruire. Il voulait instruire les enfants. Alors, il a intégré d'abord une école où il a rencontré Amélie, qui est devenue sa femme en 1832. Et Revile a tout d'abord donc créé chez lui une école de cours du soir où les enfants démunis. Donc Revile avait un grand cœur, faut le savoir. C'était quand même quelqu'un qui était.
Il donnait de sa personne.
Il n'hésitait pas à instruire.
Il faisait partager un petit peu son savoir.
Oui. C'est un grand personnage. C'est quelqu'un qui, avant d'arriver à être confronté donc à tout ce qui est phénomène spirituel, ésotérique, a tout d'abord donné énormément de lui-même, de sa vie. Et c'est quelqu'un de bien. On pouvait dire à cette époque-là, il était très reconnu. Il avait beaucoup de connaissances donc à l'Assemblée nationale. Un dénommé Victorien Chardou qui n'a rien à voir avec le chanteur. Hein, Bruno, je te vois venir. Mais on parlera donc après de ce monsieur Sardou qui était donc directeur de cabinet d'un député à l'Assemblée nationale. Alors, Revile ensuite, il était un peu comptable, et il a très vite été ruiné par de mauvais placements financiers. Ensuite, il a cumulé les emplois, puisque, évidemment, il faut se nourrir, il faut
faire tourner la boutique. Hein.
Ben voilà, il faut faire tourner la maison.
Ça fait la marmite.
Voilà. Et il a cumulé les emplois, et il est devenu un peu comptable dans certaines petites sociétés aux alentours de Paris, mais il n'a jamais abandonné de donner des cours du soir gratuitement, toujours à ses jeunes enfants défavorisés. Le mot défavorisé n'a pas changé de siècle en siècle, aujourd'hui on a toujours les mêmes problèmes. Alors, il n'a pas eu d'enfants, et il a continué sa vie donc comme cela et puis donc progressivement on arrive à cette fameuse année 1854. Alors il est né en 1804 donc ça fait à 50 ans.
50 ans oui.
Eh ben oui à 50 ans qu'est-ce qui s'est passé? A été mis sous ses oreilles.
Donc là tu sais que tu viens de dire quelque chose de très important parce que tu as des auditeurs là qui vont bientôt approcher la cinquantaine et qui se disent mais mon Dieu j'ai rien fait de ma vie mais tout peut arriver.
Mais on fait toujours quelque chose de toute manière de sa vie et on est tous reliés et on fait tous quelque chose d'important. Enfin il faut que tout le monde se le dise que tout ce qu'on fait est important.
Seul, voilà.
Bien sûr. Revile découvre l'existence des tables tournantes grâce à un ami. Bon, évidemment, Revile est de nature très discrète et très cartésienne. Au début, il dit à son ami, c'est ça, t'as raison, va voir ailleurs si j'y suis.
Toujours, voilà.
C'est toujours, tu m'intéresses, voilà. Parce qu'il n'y croyait absolument pas. Mais voilà, eh bien, quand le destin nous doit rattraper, il nous rattrape. Et donc, Revile, sous la pression de certains de ses amis, eh bien, il se retrouve
confronté à une partie médiumnique.
Il ne veut pas,
lui-même, dans son moi intérieur, le pousse à aller voir.
Et oui, voilà. Donc, Revile se retrouve à une séance médiumnique avec le tout Paris bourgeois. Je pense qu'il a connu Victor Hugo. Hein. Victor Hugo était, ils sont
contemporains, quoi. Ils ont dû se croiser.
Il a reconnu les textes d'Allan Kardec en disant que c'était très très fort et rempli de bonté. Hein. Je ne vais pas dire de vérité parce que la vérité est dans le cœur de chacun. Mais je pense qu'on a des choses importantes quand même dans ces livres. On en parlera après. Alors, Revile assiste à cette conférence médiumnique et il a vu des tables tourner, mais sans plus. Hein. Bon, c'est tout. Il a vu un médium faire tourner une table, c'est vrai que c'est impressionnant, mais paraît-il que certains organismes aujourd'hui situés sur Nice prouvent qu'il n'y a pas de manifestation. Voilà.
T'as un nom, mais tu ne veux pas le donner. ce que ça veut dire.
Le cercle zététique de Nice nous dit aujourd'hui qu'il prouve que le verre bouge sans l'intervention d'esprit. Je veux bien les croire, mais bon, pour avoir déjà vu de moi-même aussi des choses très troublantes avec le verre ou le Ouija, et des explications différentes de ce que j'ai déjà pu lire, je pense quand même qu'il y a, il y a une énergie invisible qui est autour de nous. Enfin, je ne peux pas dire le contraire. Alors, sceptique, donc, Rivail a quand même attendu un an avant d'assister à une conférence. Voilà, une conférence comme il peut s'en passer actuellement ici dans la région lilloise.
On donnera quelques dates.
Tout à l'heure, bien sûr.
Alors, l'émission.
Voilà. Donc, Rivail assiste à une conférence, donc première partie de la conférence, il y avait des personnes, bon, je ne sais pas, une cinquantaine, une soixantaine, et il se met au bout de la, il se met au bout de la salle, et tout à coup, la médium regarde Rivail, et Rivail, regarde et se dit c'est pour moi, c'est pas possible, il y a quelqu'un derrière. Mais non, pas du tout, monsieur, c'est bien pour vous.
Le petit moustacheux là, dans le fond, voilà. C'est pour toi.
Oui, parce que Rivail avait une moustache. Et donc Rivail est heureux. Je vous écoute. Mais écoutez, monsieur là-bas, je suis avec une entité, un esprit qui me dit vous avoir connu dans une vie passée, vous étiez druide et vous vous appelez Allan Kardec.
Ah bon, c'est du tilé pour lui.
Bah, c'est du tilé, comment voulez-vous prouver les vies antérieures, comment voulez-vous prouver ce qu'on vous dit dans une vie antérieure, c'est impossible. Bon, ou on y croit, on y va de bonne foi, ou alors on est sceptique et on laisse tomber. Donc Rivail dit, c'est bien gentil ce que vous me dites, mais ça ne m'apporte pas grand-chose. Bref, donc Rivail sort de là, toujours sceptique, bon, sans plus, et puis il continue sa vie.
Entre-temps, c'est ce que j'allais dire, il continue sa vie, un de ses meilleurs amis décède.
Et oui,
donc quelqu'un de très proche, mais pas un ami ou quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un vraiment très intime qui décède.
Tout à fait, cet ami décède et là, bon, toutefois, Rivail, pas pour autant qu'il décide d'aller voir une autre conférence, mais bon, c'est vrai que cet ami décède et bon, la vie continue, hein.
Tout à fait.
Voilà. Donc, il prend le journal de l'époque et constate qu'à une centaine de kilomètres de là où il habite, la région parisienne, eh bien, une autre conférence a lieu dans la même, référence que la première. Bon, alors, il faut quand même savoir qu'on est en 1854.
Ouais, la banlieue parisienne, c'est pas la banlieue parisienne de maintenant.
Ah non. Donc,
quand on dit une ville proche, ça peut être Beauvais, ça peut être Melun,
oui.
C'est vraiment très large.
Voilà.
Et
on n'avait pas de voiture.
Ah, oui, on n'avait pas une demi-heure pour y aller.
Non, mais c'est plus donc, de temps pour y aller.
100 km, ça se fait en 3 heures ou 4 heures,
oui.
selon la performance des chevaux.
À moins qu'il est allé en train, et là, on peut pas, on ne sait pas.
Possible, mais bon, il a quand même la volonté de y aller, de perdre du temps en trajet pour s'y rendre, donc c'est quelque chose de volontaire. C'est pas.
Mais ça, c'est son esprit ouvert.
Je vais chercher une baguette de pain, tiens, il y a une conférence juste à côté. Non, c'est vraiment quelque chose de volontaire.
Tout à fait, Bruno a raison, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose, bon, où aujourd'hui, des personnes pourraient se dire, bon, tiens, après tout, pourquoi pas, je vais aller voir ce qui se passe. Donc, Rivail y est allé. Et en y allant, donc, il s'était fixé quand même comme fil conducteur de rester sur le côté et de regarder caché pour voir s'il connaissait, oui ou non, d'autres personnes qui y assistaient. Alors, excusez-moi,
ça arrive, vous le direz, Thomas.
Oh là, à peine 40 minutes d'émission, ça y est, je ne peux pas le croire. Alors, donc Rivail constate que personne.
Non, vous êtes viré, Thomas.
Alors je te laisse terminer je te laisse terminer. Bon courage sur ce. Au revoir. À la semaine prochaine. Revenons à nos moutons, cher Bruno. On va terminer quand même parce que je suis convaincu que nos auditeurs,
reprenons nos esprits sans jeu de mots.
Voilà, veulent que je termine. Ils veulent savoir ce qui va se passer ensuite.
Qu'est-ce qui arrive donc à ce monsieur Hippolyte?
Eh bien, il assiste à la conférence toujours au fond de la salle et ce n'était pas du tout la même médium, pas du tout la même conférence,
pas au même endroit. C'est pas les mêmes.
Il y avait plus de monde, il y avait plus de monde à cette conférence-là, d'après nos écrits, et donc la conférence et la partie médiumnique. Et tout à coup, encore une fois, comme par enchantement, enfin on dira ça, eh bien, la médium regarde Rivail en disant « S'il vous plaît, monsieur, j'ai un message pour vous, c'est important. » Alors Rivail se lève, tout content, ironique, « Oui, oui, vous allez me dire que j'ai connu un druide dans la vie passée, que je m'appelle Allan Kardec. » La médium.
Mais non, monsieur, c'est pas du tout ça.
Pas du tout ça. Je suis actuellement avec un de vos amis qui vient de décéder. Alors là, ils sont bizarres, il devient tout blanc. Enfin, je ne sais pas quelle couleur il avait. Mais Rivail regarde et il s'approche de cette médium en disant, mais madame, si ce que vous me dites est vrai, que m'a dit mon ami qui était très important avant que je meure.
Et avant qu'il meure.
Avant qu'il meure, tout à fait, bien sûr. Alors cette médium le regarde, note sur un papier, lui donne, il ouvre évidemment, et là, eh bien, c'est la révélation.
Oui, parce qu'il découvre en fait que c'est exactement le message de son ami décédé juste avant qu'il meure. Il lui donne un message et elle lui
redonne... Son message est secret, on ne sait pas. Hein,
oui, on l'a pas, mais il lui redonne texto ce qu'il a dit, mot, phrase pour phrase.
Voilà, exactement. Alors là, évidemment, plus de doute, c'est pas possible. Comment cette médium qu'il n'a jamais vue, qui certainement tourne un peu en France pour faire passer ses messages médiumniques, comment cette médium a pu donc donner ce que Rivaille avait eu de son ami. Donc, il continue avec cette dame, vous pouvez m'en dire plus, et cette médium lui dit, mais écoutez monsieur, votre ami me dit que vous allez être pionnier d'une... vous allez vulgariser le spiritisme, c'est-à-dire que vous allez trouver des mots à la médiumnité, au spiritisme.
Une traduction pour le plus simple des langages, en fait.
Exactement, c'est une traduction. Alors, je crois que dans... il doit y exister un livre où on a toute la traduction. Je ne l'ai pas là, ça ne fait rien. Mais de toute manière, on pourra vous les donner un peu plus tard.
Tout à fait. Donc, si vous voulez nous poser des questions, vous avez notre boîte mail. Donc, chemin de lumière en minuscule, -7@yahoo.fr. Donc, vous laissez votre message et puis on essaiera de vous répondre le plus rapidement possible, de vous donner toutes les coordonnées, toutes les sources.
Alors, ensuite, que s'est-il passé? Donc, Riva, il a eu cette révélation et il va voir un de ses amis, donc qui est député, enfin du moins directeur de cabinet à l'Assemblée nationale, qui s'occupe d'un député. Alors Rivail, sous la demande de cet ami, va voir donc cette personne, et cette personne s'appelait Victorien Sardou. Que je répète, n'a rien à voir
avec le chanteur.
Non, ou alors quelqu'un pourrait peut-être nous donner sa généalogie, mais je ne suis pas au courant. Alors, de là, Victorien Sardou lui confie les cahiers de messages médiumniques.
Comme par hasard. Comme si l'Assemblée nationale s'y intéressait.
Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, pas mal de cabinets, aux États-Unis surtout, tous les ministères ont leur petite cellule de
surnaturel paranormal.
Exactement, oui. Donc, ce Victorien Sardou lui donne ses cahiers et Rivail se décide à les lire. Donc, il dit, après tout, pourquoi pas, je vais les lire, je vais voir. Alors, il se rend compte que ce sont des cahiers écrits avec plusieurs questions et des réponses. Et toutes ces réponses proviennent de différents médiums sur la région parisienne. Et ces différents médiums, par rapport aux questions posées, ont répondu, à différents médiums, la même chose.
D'accord, donc pour expliquer un petit peu ce que Thomas vient de dire, parce que personne n'a rien compris. Donc en fait, il a juste mis sur papier, il a fait un livre avec des questions, on a une réponse, mais il a corroboré tout ça par différents médiums. Voilà. Il a à chaque fois posé la même question, exactement comme on fait en science avec une éprouvette, on en prend trois, on fait exactement les mêmes tests pour confondre à chaque fois si c'est le même résultat. Donc il obtenait le même résultat, c'est là où on peut dire qu'il avait la réponse à sa question.
Mais ce que Bruno nous a pas dit, c'est que Rivail... Alors ce que Bruno nous a pas dit, donc, c'est que Rivail, pour vérifier de lui-même, est allé voir ses médiums et a posé d'autres questions. Donc il a tourné dans Paris pour avoir plusieurs réponses et il s'est avéré avoir des choses tout à fait extraordinaires. Ces magnifiques messages reçus, Rivail a pris un cahier et a commencé à les répertorier. Et à chaque fois qu'il écrivait et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas,
on avait un coup frappé.
Il y avait un coup frappé avec les Firefox. Son guide lui faisait un coup et disait stop, attention.
Là, à mon avis,
il faut approfondir, c'est pas bon.
Voilà.
Rivail retournait voir le médium, il réécrivait, s'il n'avait pas de coup, il continuait. Ce qui fait que il a mis en forme tous ses écrits. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1857, sort le livre des esprits, qui est toujours disponible en librairie. 1019 questions, réponses adressées et répondues par les esprits eux-mêmes. Il y a eu 4 éditions en très peu de temps, puisque tout Paris, et même je dirais même le tout France, s'est arraché ses bouquins. Certains l'ont très mal pris, mais bon, d'autres...
C'est pas grave.
Ça ne fait rien.
C'est pas grave pour eux.
Ces livres...
Ils comprendront alors.
Ces livres ont été réédités. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs maisons d'impression qui ont repris le livre des esprits d'Allan Kardec.
Vous pouvez trouver le livre des esprits sur
édition.
J'ai encore vu ce matin.
Tout à fait. Et on va quand même vous donner une édition rapport qualité-prix.
C'est le meilleur pour moi, c'est l'édition Filman.
Voilà, l'édition Filman sur ses meilleurs rapports qualité-prix.
Bah, dis-moi, bon, c'est en caractère gras, c'est très bien. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui a quelques connaissances aussi spirituelles et qui a réédité tous les livres de Allan Kardec. Donc, alors, ça parle donc du livre des esprits en 1861.
Oui, on va poursuivre. Il sort quand même 3 livres.
Ah oui, il en sortit beaucoup plus.
Non, mais là, sur la codification, on va appeler ça codification.
Oui, la codification.
Sur la codification, il en fait 3.
Il en a fait 3. Il a mis le livre des esprits sorti en 1857, le livre des médiums en 1861, dont on causera la semaine prochaine.
On parlera la semaine prochaine, oui.
Et l'évangile selon le spiritisme, qui reprend donc les maximes du Christ et avec les réponses données par les esprits. C'est pas mal. Alors, en 1854, donc l'évangile selon le spiritisme, donc entre 1857 et 1864, il y a eu donc ces 3 livres, donc il lui a fallu du temps, on n'écrit pas un livre comme ça. Entre deux, il y a eu une création donc de l'Union Spirit Française et Francophone par Gabriel Delagne, qui a lui-même créé la revue Spirit. Les écrits de Kardec ont été repris par Léon Denis, évidemment décédé depuis quand même longtemps, hein, c'est un tourangeau d'origine. Et entre 1855 et 1866, soit pendant plus de 10 ans, eh bien, Allan Kardec a fait le tour de France pour propager la codification du spiritisme. Pour dire quoi ? Eh bien, ne faites pas de partie médiumnique sans protection, parce que les esprits de notre côté, il y en a des gentils, il y en a des méchants.
C'est comme partout, c'est comme sur Terre. Les gens qui ont un petit esprit et un esprit mesquin, par exemple, gardent leur esprit naïf dans l'au-delà. Et ils agissent exactement de la même manière. Donc on peut se faire jouer par des esprits mesquins, et c'est ce qu'il faut éviter en prenant à la légère toutes ces parties médiumniques.
Il faut faire attention. Voilà, il ne faut pas se lancer comme ça dans une partie expérimentale pour s'amuser.
On ne s'amuse jamais.
Parce que si vous voulez vous amuser, vous n'aurez pas de réponse cohérente et
vous aurez des esprits joueurs.
Voilà, des esprits taquins, joueurs. Bon, enfin bon, ce sont des formes, d'esprit, hein. On connaît pas trop, quoi. Mais bon, il existe des formes. Si vous commencez une partie médiumnique, vous faites des bonnes pensées, mais ne vous lancez pas sans. Moi, je vous conseille les Allan Kardec. De toute manière, c'est très simple.
Donc, vous avez il explique comment s'y prendre et le genre de questions à poser, comment poser sa question, dans quel but. Donc, si vous voulez les numéros du loto, c'est pas la peine d'appeler.
Non, vous les aurez pas.
De toute façon, on les a.
Et ne nous envoyez pas de mail pour nous demander si on les a. On ne les aura pas non plus. Alors, aujourd'hui. D'abord, Allan Kardec est décédé, dans le jargon spirituel, c'est désincarné. Désincarné le 31 mars 1869. Il repose encore actuellement, non pas son corps, puisque son corps a été mis dans un autre endroit de Paris, mais les cimetières s'est effondré, on n'a pas pu récupérer ses restes. Mais son épouse est là, Amélie actuellement est là. Amélie est décédée une dizaine d'années plus tard, hein. Et il faut savoir que, Allan Kardec, ça vous pouvez le vérifier si vous avez internet et vous allez faire un petit tour sur le cimetière du Père Lachaise.
Tout à fait.
Du cimetière du Père Lachaise.
C'est facile. Il a une tombe.
C'est la plus belle.
Il a une sépulture là-bas. Bon, la plus belle, c'est des questions de goût, Thomas.
Je pense qu'on peut dire que c'est la plus belle. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la plus fleurie.
C'est une des plus visitées.
C'est l'une des plus visitées avec celle de Jim Morrison.
Tout à fait.
D'abord, vous sortez du Père Lachaise, vous voyez une librairie ésotérique qui a 90% de photos et de livres d'Allan Kardec et de Jim Morrison.
Un petit moustachu.
Voilà. Vous avez quelque chose qui est très surprenant, donc, sur cette sur cette sépulture qui est sous forme de dolmen. Alors, il y a cette appellation, cette écriture qu'on retrouve aussi sur d'autres tombes du Père Lachaise, dont je parle de Gérard Rancos, qui s'est appelé Papus et qui a écrit beaucoup de livres sur la réincarnation. Et le fil conducteur, la phrase de Kardec, c'était naître, mourir, renaître et progresser sans cesse, telle est la loi. Ça fait réfléchir.
Ouais.
Ça fait réfléchir.
Il nous a laissé un beau message.
Ah oui, pour moi, c'est un message magnifique. Et c'est visible sur sa tombe. Il faut savoir que sa tombe est entretenue chaque jour par l'Union Spirit Française Francophone, qui est de nos jours a repris donc le flambeau, et qui est présidée par monsieur, je ne sais plus son nom, je l'ai déjà vu une fois.
C'est pas grave, on essaiera de vous donner les contacts.
Roger Pérez, voilà. Roger Pérez, qui donc aujourd'hui est président de l'Union Spirit Française Francophone. Il existe d'autres associations spirituelles. Je sais qu'il y en a une ici sur Waterloo, d'ailleurs ils nous écoutent peut-être, c'est l'association 6ème Sens à Waterloo qui aussi s'occupe de tout ce qui est eh bien paranormal, surnaturel, et je pense que d'ailleurs ils vont venir, enfin du moins le président de cette association qui est déjà passé
on va essayer de
la radio, la télévision, il va venir, je pense qu'il va venir. D'abord s'il nous écoute, eh bien on lui lance
exactement.
Alors, vous pouvez venir.
Sans problème, vous êtes invité.
Donc, ah bah évidemment.
Thomas, nous venons de parler de deux événements. Nous venons de faire notre première émission.
Oui.
On a posé les bases, Thomas.
Oui.
Je pense qu'on a posé les bases.
Je pense qu'on a posé les bases.
Un petit peu, quel était le thème de l'émission.
Je vais résumer simplement quelque chose. Dans la philosophie spirituelle et dans les autres philosophies, c'est toujours cette recherche. D'où l'on est, d'où l'on va, d'où l'on vient et qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. C'est ça aujourd'hui qu'on se pose comme question.
Voilà.
Voilà. Et c'est ce qui est venu faire Allan Kardec tout simplement en essayant justement d'approfondir.
En essayant de vulgariser un petit peu ce que tu viens de dire. C'est, personne n'a une vie pourrie. On a automatiquement quelque chose à faire. Ce pourquoi on est là.
La musique, la radio.
Vous allez attendre 40 ans avant d'aider quelqu'un, et cette aide va apporter énormément de choses par la suite.
Voilà. Donc on a aussi aujourd'hui une personne de contemporaine qui a une quarantaine d'années, Magda Maria Struc, qui a repris aussi bien des messages. Et on a aussi d'autres personnes. Bon, on a des témoignages extraordinaires. Bon, on en parlera plus tard, comme Karine après la vie de Didier Grandcovlar avec Marie-Vonne Yvondray. Oui.
Pour les connaisseurs, c'est le pourquoi du sexe dans notre adresse.
Oui. Voilà, c'est un coucou à une amie qu'on connaît très bien, qui s'appelle Karine. Alors, on va maintenant, Bruno, si tu le veux bien, parler des quelques conférences, quelques qui se passent autour de nous. Donc j'ai parlé de l'association 6ème Sens qui se passe à Waterloo. Il faut savoir que sur l'île, vous avez le cercle d'études psychologiques qui donc est situé sur l'île, mais qui organise tous les 4e samedi de chaque mois à l'hôtel Ibis Gare, donc qui est situé 29
avenue Charles Saint-Venant à Lille,
à 15h.
À 15h précisément.
Et bien des conférences. Donc là, je vois quand ils m'ont donné leur document pour 2003, je vois qu'il y a un scientifique, M. Georges Vario, qui est venu parler de la science moderne, prouve que des informations persistent lorsque la forme matière a disparu. Et il y a une partie médiumnique, donc on appelle clairvoyance. Donc là, je vois que c'était Madame Hénon, Madame Chantal Lafont vient aussi, enfin les parties médiumniques, elle vient quand même de Paris, Boulogne-Billancourt. Je l'ai déjà vu, c'est impressionnant, je vous conseille d'aller la voir un jour.
Justement, on en parle depuis tout à l'heure, t'en as pas, enfin, tu as vécu, toi, des parties médiumniques.
Oui.
On en a parlé avec Allan Kardec, est-ce qu'il a participé donc à deux fois.
Oui.
Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est une partie médiumnique?
Bien sûr.
Les gens qui nous écoutent ne sont pas forcément
bien sûr. Bon, moi, je vais parler de ce que j'ai déjà vu dans les quelques, associations. Donc, ce sont des conférences qui se passent, avec une première partie, une conférence où on parle de tout. C'est-à-dire, on peut
aborder un sujet, comme nous on fait lors de la radio, lors de l'émission.
Voilà, donc là je vois que on parle des rêves, on parle donc de l'aurore, on parle donc du divin, on parle des rêves prémonitoires, des mystères, de la messe, des manifestations surnaturelles, on parle de la géobiologie, de magnétisme, de bouddhisme, j'ai déjà vu des personnes de religion protestante, catholique qui sont déjà venues exposer un petit peu comment ils voyaient l'au-delà, tout à fait. Donc on a ça, et en deuxième partie, on a une partie médiumnique. Alors, soit on a des médiums qui sont sur l'estrade et qui font, qui prennent une photo, qui rentrent en communication avec l'esprit du défunt, ou alors on a des médiums qui travaillent en direct, c'est-à-dire que ils se concentrent, ils reçoivent un message et le message correspond
un petit peu comme
temps.
Un petit peu comme donc la médium pour Allan Kardec. Allan Kardec qui donnait des messages.
Des messages,
c'est vrai qu'il y en avait un pour le petit moustachu du fond là.
Voilà. T'aimes bien dire petit moustachu.
Ah ouais, je l'aime bien.
J'aimerais en avoir une, tiens. Ok, et donc on a des personnes qui viennent parler, et cette partie médiumnique qui est surprenante. Je pense qu'on a aussi certains auditeurs qui ont, me semble-t-il, ont déjà assisté à des conférences et à des parties médiumniques, et s'ils veulent eux-mêmes téléphoner plus tard, puisqu'on a l'intention aussi...
On va essayer de mettre en place en direct pour les auditeurs.
la possibilité d'appeler et de poser une question, ou alors d'avoir une partie médiumnique en direct.
Oui.
Donc on va essayer de mettre ça en place.
Voilà, je suis en train de voir avec deux personnes qui sont sur l'île, pourquoi pas de venir donc faire une partie de tarot, hein, et d'avoir vous la possibilité qui nous écoutez de téléphoner et de répondre à deux ou trois questions, et puis pourquoi pas de faire de la médiumnité en direct, mais bon, je ne dirai pas qui en fait, mais on rentrera dans le temps, dans le vif plus tard.
Tout à fait.
Ok, donc, rapidement, l'association du centre Augustin Lesage, qui est située à Bruay-la-Buissière, Salles-les-Marguerites, c'est la rue des Seringas, c'est pas compliqué à trouver, c'est à côté de Béthune. Qui donc, c'est très intéressant, c'est Madame Dron, Nicole Dron, qui va venir parler de son CNDE.
Elle est déjà passée avec Libri, CNDE, on essaie d'expliquer très rapidement. On a passé une mort imminente, voilà. C'est-à-dire qu'on est au seuil de la mort, mais on revient dans son corps.
Voilà.
Ce laps de temps, il se passe énormément de choses.
Alors, un laps de temps, Madame Dron a fait une NDE de 40 secondes, et c'est comme si elle avait passé 20 ans dans l'autre bloc.
Oui, parce que le temps n'existe pas
de l'autre côté,
donc on peut
passer 14 secondes
ici. De l'autre côté, on peut en avoir fait 100 ans, et
voilà.
Et revenir tout jeune et tout frais comme 14 secondes avant.
Et très souvent, ces personnes qui ont fait des NDE reviennent et ont changé de vision d'optique. Oui. Il y a des associations qui existent, j'en ai déjà vu.
Il y en a beaucoup qui sont tristes déjà de revenir parce qu'ils ont vu énormément de choses merveilleuses de notre côté, mais leur temps n'est pas encore venu.
Ils doivent revenir. On a quelqu'un de très célèbre qui en a fait, Philippe Labro, le chroniqueur d'RTL.
Tout à fait.
On a donc Madame Dron, on a d'autres personnes qui en ont fait, mais il y a beaucoup de livres qui existent.
J'apporte beaucoup d'attention sur CNDE parce que ça nous amène quand même beaucoup d'éléments qui sont très difficiles à contredire, parce qu'on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet très rapidement, mais des aveugles arrivent à décrire un petit peu ce qui se passe dans la salle d'opération alors qu'ils sont aveugles, et ils reviennent aveugles, mais ils ont quand même vu,
ça bouleverse.
L'infirmière est rentrée en premier, le deuxième c'était le médecin et qu'il avait une blouse bleue
et même décrire une entité qu'ils ont vue de l'autre côté.
Donc ça c'est vraiment des éléments qui sont très difficiles à...
Voilà, et je veux même aussi apporter quelque chose de différent. Dans un des derniers Science et Vie Junior paru il y a 2 mois, eh bien, il y a une nouvelle forme qu'on ne peut pas appeler NDE, mais ce sont des gens qui font des méditations et qui sortent du corps. Et ça, c'est expliqué dans Science et Vie, comme quoi mais en effet, ils sortent, ils reviennent et ils expliquent ce qu'ils ont vu. Et là, on ne peut pas dire que ce sont des NDE, c'est-à-dire que la méditation évolue, le spirituel évolue, et on risque d'avoir des sacrées surprises dans le temps.
Oui, voilà. Tout à fait. Et c'était donc, en fait, la meilleure personne qui pouvait en discuter, qui nous a laissé sur Terre et qui est décédée au mois d'août.
Madame
Clobarose, voilà, qui a consacré donc sa vie. C'est un médecin qui a été reconnu, médecin psychiatre, qui a été reconnu par ses pairs à plusieurs reprises. Et donc elle décrit tous les soins palliatifs.
On pourra parler de la
On fera une émission entièrement sur les acteurs, on la fera.
Je pense qu'on va la faire. Je pense que Bruno aime beaucoup Isabelle Clobarose, et je pense que beaucoup d'auditeurs vont l'apprécier.
Donc je vais faire 2 minutes maintenant, Thomas.
Avec grand plaisir, je vais terminer. Alors,
pas de course, s'il te plaît.
Ouais, mais il n'y a pas de problème, mon cher Bruno. Donc, la conférence qui arrive ici, là, dimanche, donc le dimanche 17 octobre 2004, conférence à Douai à la Maison des Associations, salle de la Chapelle, rue des Potiers. Première partie, donc, faite par Gabriel Di Gerlando, retenez ce nom, il va venir ici. Il parlera donc d'Edgar Cayce. Gabriel m'a promis de venir ici pour parler donc de Saint Padre Pio, Saint Jean-Marie Vianney, d'Edgar Cayce. Mais si vous voulez le voir avant, n'hésitez pas donc d'aller à la salle de la Chapelle, rue des Potiers à Douai. La partie expérimentale médiumnique sera effectuée par les médiums du Chénon, qui sont deux. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller et vous verrez comment ça se passe. Là-bas, on parlera aussi de Radio Boomerang, puisque nous travaillons en collaboration avec eux. Donc, je termine. Vous avez des questions, chemin de lumière, -7@yahoo.fr, tout en minuscule, ou à la radio 89.7@radioboomerang.com. La semaine prochaine, on parle des médiums avec Bruno, si tu seras là.
Eh bien, sans problème.
C'était un plaisir pour nous et on vous dit à la prochaine. Au revoir.
Est-ce que tu as précisé que nous étions rediffusés donc le vendredi à 21h30?
Je peux te les laisser.
Ok, c'est très gentil, Thomas. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.
À bientôt.